Vous écoutez On lit pour vous.
Voir toujours plus loin. Un texte de Renaud Manuguerre a gagné, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Tour d'horizon des futurs télescopes qui traqueront exoplanètes et galaxies lointaines et qui pourraient transformer notre vision de l'univers. Après le lancement du télescope spatial James Webb en 2021 et la mise en service toute récente de l'observatoire Vera C. Rubin au Chili, qui photographie l'intégralité du ciel austral tous les 3 jours, on pourrait penser que la communauté scientifique est rassasiée. Mais il n'en est rien. En effet, en matière d'astronomie, chaque avancée technologique permet de dévoiler un nouveau pan de l'univers. Plus les télescopes sont grands et performants, plus ils révèlent d'objets célestes, toujours plus éloignés et de plus faible luminosité, et plus ils nous permettent de comprendre les structures du cosmos. Or, on a intérêt à s'y prendre d'avance, car plusieurs décennies peuvent s'écouler entre la conception d'un télescope et sa concrétisation. Il a fallu, par exemple, 30 ans et 10 milliards de dollars à James Webb pour voir le jour. Cela tombe bien. Plusieurs grands projets sont en préparation et tous vont sonder le cosmos sous un angle bien précis. L'œil humain ne peut voir que la lumière visible. Or, le spectre électromagnétique est plus large et l'univers nous envoie plein de messages différents sur toutes ses longueurs d'onde, explique l'astrophysicienne Nathalie Ouellet, directrice adjointe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Parmi ces signaux invisibles, les ondes radio transportent des informations provenant de pulsars, d'étoiles à neutrons ou de nuages de gaz interstellaires. Les rayons gamma et les rayons X renseignent sur les phénomènes les plus violents de l'univers, comme la présence de trous noirs ou des explosions d'étoiles. Les micro-ondes portent la trace du Big Bang lui-même, et l'infrarouge permet de percer les nuages de poussière où naissent les étoiles et les planètes. Ce n'est donc pas un caprice de vouloir différents télescopes. Ils ont des fonctions et des visions différentes. Si on observe seulement certaines ondes électromagnétiques, on regarde l'univers avec un champ de vision très limité, ajoute l'astrophysicienne. Voici donc une liste, loin d'être exhaustive, de certains projets phares qui ouvriront une nouvelle fenêtre sur l'univers. GMT et ELT, les plus grands yeux du monde. Étape de fabrication, structure en construction. Date d'entrée en service, 2028 pour l'ELT, vers 2030 pour le GMT. Sur les hauteurs du désert d'Atacama, au Chili, 2 colosses se préparent à scruter le ciel. L'Extremely Large Telescope, ELT, un projet européen, et le Giant Magellan Telescope, GMT, américain, seront polyvalents. Ils serviront à observer autant les planètes de notre système solaire que les galaxies formées peu après le Big Bang, dans la lumière visible comme dans l'infrarouge. Mais c'est surtout la taille de leur miroir, 39 mètres de diamètre pour l'ELT et 25 mètres pour le GMT, qui les distingue des instruments précédents. L'ELT aura ainsi une surface 16 fois plus importante que celle des plus gros télescopes actuels. Il sera de loin le plus gros télescope du monde. L'avantage d'un gros télescope, explique Nicolas Cowan, c'est qu'il collecte plus de lumière. Cela permet de voir des objets lointains invisibles autrement, mais aussi d'obtenir une meilleure résolution. Construire des miroirs de cette taille représente un défi technologique immense. Aucun des deux ne sera constitué d'une seule pièce de verre, qui aurait été impossible à fabriquer. On mise plutôt sur un assemblage de petits miroirs et sur l'optique adaptative. Ce système consiste à corriger en permanence les fluctuations de la lumière dues aux turbulences de l'atmosphère terrestre grâce à un ou à plusieurs miroirs secondaires très fins et déformables qui compensent en temps réel ces distorsions au micron près, en bougeant plusieurs centaines de fois par seconde. Pour l'ELT, L'équipe de l'Observatoire européen austral, ESO, a opté pour une mosaïque de 798 miroirs hexagonaux dont les mouvements seront parfaitement synchronisés. De son côté, le GMT utilisera 7 miroirs géants disposés comme les pétales d'une fleur. Sans surprise, c'est la fabrication de ces miroirs qui a pris le plus de temps. Pour le GMT, par exemple, le polissage d'un seul miroir prend près de 2 ans. Du côté des instruments, les deux géants seront dotés de plusieurs caméras et spectrographes qui disséqueront la lumière reçue. L'Université de Montréal participe notamment à la conception du spectrographe ANDES pour l'ELT qui pourra analyser l'atmosphère des exoplanètes. On espère étudier le spectre électromagnétique des atmosphères d'exoplanètes avec beaucoup plus de précision, possiblement la clé pour enfin confirmer ou infirmer des biosignatures, explique Nathalie Ouellette. Square Kilometer Array, un radiotélescope sur 2 continents. Étape de fabrication terminée. Il reste à connecter les 2 structures. Date d'entrée en service 2028-2029. Pour entendre les murmures radio venus du cosmos, il faut d'immenses surfaces collectrices, à l'instar de FAST, une coupole de 500 mètres de diamètre construite en Chine il y a 10 années. Un autre de ces projets colossaux prend forme au cœur des déserts d'Afrique du Sud et d'Australie. Le Square Kilometer Array, SKA, littéralement réseau d'un kilomètre carré, sera le plus puissant radiotélescope jamais construit. Cet observatoire international n'est pas un télescope unique, mais un gigantesque réseau d'antennes et de paraboles fonctionnant ensemble. En Afrique du Sud, près de 200 grandes antennes seront capables de capter les ondes radio de fréquences intermédiaires. En Australie-Occidentale, plus de 130 000 petites antennes, ressemblant à une forêt de sapins métalliques, seront destinées aux basses fréquences radio. Ces instruments fonctionneront comme un seul télescope géant grâce à une technique appelée interférométrie. Le concept: recombiner la lumière de plusieurs télescopes, éloignés les uns des autres, qui agissent alors de concert, comme un unique télescope géant. Une fois reliés par des milliers de kilomètres de fibres optiques et synchronisés par des logiciels extrêmement précis, les 2 instruments du SKA auront une surface combinée équivalent à une coupole unique d'un kilomètre carré. Cela leur permettra de détecter des signaux radio extrêmement faibles, bien plus lointains que ceux observés par les instruments actuels. Les astronomes utiliseront surtout SKA pour retrouver la trace des premières étoiles et galaxies et pour cartographier la répartition de la matière noire. Vous écoutez « Voir toujours plus loin », un texte de Renaud Manuguera-Gagné paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Nancy Grace Roman et Plateau. À la recherche d'exoplanètes rocheuses. Étape de fabrication terminée. Date d'entrée en service dès septembre 2026. Romane, hiver 2027, Plateau. Depuis la découverte des premières exoplanètes dans les années 1990, les astronomes rêvent de trouver une véritable sœur de la Terre dans un autre système solaire. Un type de planète qui demeure encore largement introuvable. 2 télescopes spatiaux, l'Américain Nancy Grace Roman et l'Européen Plateau, tenteront de relever le défi, chacun à sa manière. Envoyés à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, ils se consacreront à l'observation de planètes rocheuses. Le premier à être lancé pourrait être le télescope Nancy Grace Roman, nommé en l'honneur de la première femme à avoir occupé le poste d'astronome en chef à la NASA. Il dispose d'un champ de vision 100 fois plus large que celui du télescope Hubble. Une seule image pourra ainsi couvrir d'immenses portions du ciel, dans le visible comme dans l'infrarouge. Selon l'astrophysicienne Nathalie Ouellette, ce télescope agira comme un puissant instrument de recensement. Il va faire des cartographies systématiques du ciel et produire des catalogues de données accessibles au public. Doté d'un miroir de 2,4 mètres de diamètre, le télescope utilisera aussi un tour de passe-passe, la micro-lentille gravitationnelle. Lorsqu'un objet massif courbe l'espace-temps, il peut amplifier brièvement la lumière d'une étoile située en arrière-plan. Une planète passant devant une étoile lointaine, autre que la sienne, peut alors trahir sa présence par un léger pic de luminosité. Cette méthode permettra même de repérer des planètes errantes, dérivant seules dans la galaxie. Le Nancy Grace Roman sera également doté d'un coronographe de pointe capable de bloquer la lumière d'une étoile afin d'être moins ébloui et donc de révéler les planètes qui l'entourent. L'instrument pourrait permettre, pour la première fois, d'observer directement des exoplanètes géantes gazeuses, semblables à Jupiter. PLATO, Planetary Transits and Oscillations of Stars, utilisera pour sa part des méthodes plus classiques pour détecter des planètes autour d'autres étoiles, mais avec un raffinement inédit. Dirigé par l'Agence spatiale européenne, la mission observera la lumière visible de plus de 200 000 étoiles de la Voie lactée à la recherche d'une légère baisse de luminosité, celle qui survient lorsqu'une planète passe devant son étoile. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit. Mais plutôt que d'utiliser un unique grand miroir, PLATO sera équipé de 26 caméras fonctionnant simultanément. Ensemble, elles surveilleront d'immenses portions du ciel. Habitable Worlds Observatory, le prochain mégaprojet. Étape de fabrication, conception du projet. Date d'entrée en service, année 2040. Si trouver une planète sœur de la Terre représente un défi, réussir à l'observer relève aujourd'hui du rêve, du moins jusqu'au prochain télescope spatial phare de la NASA, le Habitable Worlds Observatory, HWO. L'objectif de ce mégaprojet, dont l'ampleur pourrait rivaliser avec celle du télescope James Webb, sera de capter des images directes de terres lointaines. Il fonctionnera dans les longueurs d'onde ultraviolettes, la lumière visible et l'infrarouge, pour détecter les biosignatures atmosphériques, telles que celles de l'oxygène, de l'ozone et du méthane. Pour accomplir cet exploit, HWO devra repousser plusieurs limites technologiques. Les scientifiques envisagent un télescope doté d'un miroir segmenté d'au moins 6 mètres, comparable à celui du télescope James Webb ou plus grand. Plusieurs missions à venir serviront de banc d'essai pour ces technologies, la véritable difficulté résidant dans l'immense contraste entre la luminosité d'une étoile et celle d'une planète rocheuse orbitant autour. Pour pouvoir isoler l'image de la planète, le télescope devra atteindre une stabilité inégalée. Après avoir pointé l'instrument vers une nouvelle étoile, il faudra attendre plusieurs heures avant de commencer les observations, afin que la totalité des vibrations cesse pour atteindre cette stabilité extrême, explique Nicolas Cowan. Pour l'instant, HWO n'existe que sur le papier, les technologies requises restant à inventer. Comme pour James Webb avant lui, des scientifiques pourraient passer leur carrière entière à travailler sur cet instrument, en espérant que leur effort sera couronné par la découverte d'un autre petit point bleu dans l'univers. Vous écoutez « Voir toujours plus loin », un texte de Renaud Manuguera Gagné, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Castor, un remplaçant de Hubble 100% canadien? Étape de fabrication, demande de financement. Date d'entrée en service, sans objet. Le célèbre télescope spatial Hubble approchant de la fin de sa carrière, les astronomes réfléchissent à ce qui pourrait prendre la relève pour observer l'univers, notamment dans l'ultraviolet et la lumière bleue. Deux domaines particulièrement importants pour étudier les phénomènes les plus énergétiques de l'univers, et non couverts par les autres télescopes. Parmi les candidats figure Castor, pour Cosmological Advanced Survey Telescope for Optical and UV Research, un télescope spatial doté d'un miroir d'un mètre de diamètre et proposé par le Canada. Castor, c'est l'équivalent de Hubble, mais avec un champ de vue 100 fois plus grand, explique l'astrophysicienne Nathalie Ouellette. Le télescope pourrait capturer en une seule image une zone aussi large que la pleine Lune, une tâche qui nécessiterait environ 100 images avec Hubble. Cette capacité de balayage rapide serait particulièrement utile pour détecter des phénomènes imprévisibles, comme des explosions stellaires. On ne sait pas toujours où pointer pour les voir, donc il faut cartographier le ciel de façon régulière, explique la chercheuse. Avec un budget estimé entre 300 et 400 millions de dollars, Castor pourrait démontrer la capacité du Canada à diriger une mission spatiale. On a déjà eu beaucoup de succès avec de plus petites missions, rappelle Nathalie Ouellette. Mais montrer qu'on est capable de mener un projet comme celui-là serait extrêmement important pour le leadership scientifique du Canada. Télescope lunaire, quand la cible devient l'observatrice. Étape de fabrication, projet à l'étude. Date d'entrée en service sans objet. Au-delà des télescopes terrestres ou spatiaux, un des concepts qui font rêver les astronomes consiste à faire de la Lune le laboratoire suprême pour scruter l'univers. Et ce n'est pas qu'un rêve. Des projets américains et chinois envisagent d'installer des instruments d'observation sur notre satellite. Le principal atout de la Lune? Elle combine en un seul lieu les avantages des meilleurs télescopes spatiaux et terrestres sans les inconvénients. D'abord, comme pour les télescopes spatiaux, son environnement dépourvu d'atmosphère et parsemé de cratères plongés dans l'ombre en permanence offre des températures glaciales idéales pour des miroirs observant l'infrarouge lointain et constitue un havre de paix pour capter les signaux cosmiques, loin des interférences terrestres. Et comme les télescopes terrestres, l'immense surface disponible permet la construction de gros télescopes stables. Des projets de radiotélescopes ont été proposés tant par les États-Unis que par la Chine. Le projet américain Lunar Crater Radio Telescope prévoit un filet grillagé suspendu dans un cratère, tandis que la Chine pousse le concept plus loin avec un réseau de 7200 antennes sur 30 km. Mais on est encore loin de pouvoir relever les défis techniques de tels projets et de lever les budgets nécessaires. Avant tout, il faudra lancer de nouvelles missions habitées sur la Lune, ce qui n'aura pas lieu avant Artemis IV en 2028 du côté américain et 2030 au plus tôt pour la Chine. Le privé entre en scène. Les investissements croissants d'entreprises privées dans le spatial concernent aussi les télescopes. Début 2026, Eric Schmidt, ancien patron de Google, et son épouse Wendy ont annoncé le financement de 4 télescopes de pointe, 3 au sol et un quatrième, nommé Lazuli, qui a pour ambition de remplacer Hubble dans l'espace. Pour Nicolas Cowan, professeur de physique et de sciences de la Terre et des planètes à l'Université McGill, ces nouveaux modèles pourraient transformer l'astronomie. De plus en plus de compagnies privées commencent à développer des télescopes spatiaux pour lesquels les universités acceptent de payer afin de réserver du temps d'utilisation. La contribution peut être financière ou se faire en offrant des instruments de mesure, explique-t-il. Dans d'autres cas, ce sont des philanthropes qui lancent un appel à idées scientifiques et financent un télescope qui peut coûter quelques centaines de millions de dollars. Mais cette évolution suscite aussi certaines inquiétudes. Pour Nathalie Ouellette, dépendre trop fortement de financements privés pourrait fragiliser la planification scientifique à long terme. Je ne voudrais pas que les gouvernements disent que le privé peut financer ça. Ces missions se développent sur des décennies. Si on commence à dépendre des caprices des milliardaires, ça deviendra inquiétant, d'autant que les grandes missions qu'on voit une fois par génération, comme James Webb, coûteront toujours plusieurs milliards. En chiffres, Le grand miroir de l'aile te collectera 100 millions de fois plus de lumière que l'œil humain, et ses segments sont polis avec une précision de 10 nanomètres, soit 10 000 fois moins que la taille d'un cheveu humain. En chiffres, SCA produira environ 600 millions de gigaoctets de données par an. Il faudrait 200 ans pour télécharger cette quantité de données avec une connexion Internet domestique. C'était « Voir toujours plus loin », un texte de Renaud Manuguera Gagné, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Dix trucs pour se sentir mieux. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 28 juin 2026 dans La Presse. Bouger, idéalement en nature. Lorsqu'on bouge, le cerveau libère des endorphines, l'hormone du bien-être. L'exercice évacue le stress, les tensions du travail. On revient plus reposé. Résume le psychiatre Georges Pinard. Les problèmes nous apparaissent souvent moins gros à résoudre. Et bouger en nature, c'est encore mieux pour diminuer le stress et augmenter la sensation de bien-être. Le docteur Pinard aime aller observer la nature dans un petit parc près de chez lui, où quelques canards ont leurs habitudes. S'entourer. S'entourer permet aussi de mieux gérer son stress. Cette connectivité sociale est pas mal érodée par les temps qui courent. Mais l'homme est un animal social, rappelle le psychiatre Georges Pinard. Il pense, entre autres, aux gens anxieux à l'idée de tomber gravement malade. Être seul, sur son lazy boy, en se palpant le ventre, c'est contre-productif, résume-t-il. Se coller à un animal ou à un être humain qu'on aime permet de libérer de l'ocytocine, l'hormone du bonheur, indique la psychologue Christine Groux. Se parler. Aux jeunes qui se sentent stressés pendant un examen, la chercheuse Sonia Lupien conseille de se répéter trois fois dans leur tête la phrase suivante. Ceci n'est pas un stress, c'est un défi. Oui, le stress provoque des effets physiologiques, mais ce même stress permet aussi d'être éveillé et alerte. Quand tu n'es pas assez stressé, ce n'est pas mieux, rappelle-t-elle. Éteindre l'interrupteur. À ces patients qui ont de la misère à trouver le sommeil le soir, parce que le hamster dans la tête fait des siennes, Christine Groux conseille de fonctionner par image. On essaie d'éteindre l'interrupteur en disant que la nuit, il ne se passe rien, on ne manquera rien et qu'on peut donc dormir et rouvrir l'interrupteur le lendemain. Ça ne marche pas toujours, convient-elle. Mais parfois, ça fonctionne. Comprendre l'anticipation. Christine Groux se souvient de cette fois où elle a témoigné comme experte en cours et qu'elle a mal répondu à une question. Cette question manquée l'a hantée. Et pourtant, ce n'est pas ça qui change la donne dans une cause, souligne-t-elle. Son conseil? Se rappeler que l'anticipation, c'est toujours pire que la chose elle-même. Revoir ses attentes. Le psychiatre Georges Pinard se souvient encore de ce patient qui désirait ne plus jamais être anxieux. Il m'a demandé ce que je pouvais faire pour lui. Et je lui ai répondu ceci. « Monsieur, vous êtes à la recherche de l'impossible. On peut apprendre à réguler son stress, à le diminuer pour mieux fonctionner, tout en acceptant qu'il fait partie de l'expérience humaine. Être indulgent. Certains moments sont par nature anxiogènes. L'examen du vendredi, un changement d'emploi, un déménagement. Dans ces périodes-là, soyez plus indulgent envers vous. Permettez-vous de vous détendre, d'écouter des choses drôles, de diminuer vos objectifs. Conseil Christine Groux. Au terme d'une mauvaise journée, on peut s'offrir du réconfort pour que le cerveau encode quelque chose de bon. Compartimenter ses problèmes. Penser à ses problèmes n'est pas une mauvaise chose en soi, lorsqu'on est axé sur la recherche de solutions, indique le docteur Georges Pinard. Et lorsqu'on s'y met, mieux vaut ne pas réfléchir à tous ces problèmes en même temps. Ce qui peut aider, c'est de compartimenter les problèmes, dit-il. Mettre ses limites. Lorsqu'on se sent débordé, au travail par exemple, et qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, c'est important de mettre ses limites, prévient le docteur Georges Pinard. Si on absorbe tout, y compris les problèmes des autres autour de nous, c'est assez pour être anxieux. Et lorsque la tâche semble insurmontable, on peut la défaire en petites sous-tâches et les faire une après l'autre, dit-il. Fuir les chambres d'écho. Les réseaux sociaux fourmillent de vidéos à propos de l'anxiété. Des influenceurs qui filment leur crise d'angoisse, d'autres qui vendent des remèdes anti-stress. Il est facile de tomber dans des chambres d'écho. Mieux vaut consulter de bonnes sources d'informations et d'éteindre l'écran pour voir qu'il y a d'autres choses ailleurs dans la vie, conclut Christine Groux. C'était 10 trucs pour se sentir mieux. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 28 juin 2026 dans La Presse.